Aujourd'hui, en ce 15 novembre, c'est la fête de Saint-Albert le Grand, un grand saint dominicain qui a été le professeur de Saint-Thomas d'Aquin. Il y a aussi plusieurs autres saints, et en particulier quelqu'un qui intéressera beaucoup de gens, c'est Saint-Joseph Pignatelli. C'est un cas assez particulier, un jésuite qui a été jésuite au moment de la suppression de l'ordre des jésuites et qui est mort en 1811 et il a participé au rétablissement de cet ordre merveilleux que sont les jésuites, la Société de Jésus, à laquelle nous devons tant ici au Québec depuis les origines de notre peuple, ici même, au XVIIe siècle. Et c'est aussi la fête d'une dominicaine. S'il y en a pour les jésuites, il en faut pour les dominicaines, mais la dominicaine est un peu étrange. Je vous raconterai ça tout à l'heure. C'est aussi la fête de Saint Léopold III, un laïc qui était margrave d'Autriche, et qui est même le patron de l'Autriche. Et puis, on aurait pu parler aussi de Saint Fintan, un reclus irlandais encore, et puis de martyrs anglais, au temps de la persécution, n'est-ce pas, après le schisme entre l'Église d'Angleterre et l'Église de Rome. Mais je commence donc avec Saint Albert le Grand. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Alors, Saint Albert le Grand, ce dominicain qui était évêque de Ratisbonne, donc en Allemagne, est docteur de l'Église. Il est mort en 1280. On voit des gens qui s'appellent Albert le Grand, j'en connais, ça fait curieux. C'est un nom qui est encore répandu aujourd'hui. Et Albert le Grand, c'était l'un des plus grands savants du Moyen-Âge. Et probablement au cours des 2000 ans qui séparent Aristote de son époque, il a été le plus grand spécialiste des sciences naturelles. Mais il a aussi été un grand philosophe, puis un grand théologien aussi. Alors rien ne lui échappait, on peut dire. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est lui qui a contribué à former ce génie de Saint Thomas d'Aquin. Oh, il a été décrié Saint Thomas d'Aquin. Mais je sais qu'on a publié, il y a quelques années à peine, un excellent livre pour réhabiliter Thomas d'Aquin. Et je crois qu'il faut toujours situer Saint Thomas d'Aquin dans son temps. Il faut savoir lire Saint Thomas d'Aquin avec beaucoup d'intelligence. On l'accuse de choses tellement farfelues des fois sur les ondes de la radio que je ne peux pas m'empêcher d'en relever une en particulier. On dit que Saint Thomas d'Aquin doutait que les femmes aient eu une âme. Mais c'est absolument faux. C'est absolument faux. Il croyait profondément à la Vierge Marie et aux saintes qui avaient vécu avant lui, et qui avaient eu des âmes. Il n'a jamais dit que la Sainte Vierge n'en avait pas, ou que les femmes qui l'avaient précédée n'en avaient pas, ou que sa mère n'en avait pas eu. C'est une question qu'il se pose, comme quand il se pose une question sur l'existence de Dieu, il se dit « Dieu existe-t-il » Est-ce que ça veut dire qu'il doutait de l'existence de Dieu? S'il pose une question à savoir si le Christ est Dieu, est-ce que ça veut dire qu'il doutait de la divinité du Christ? Quand il se pose des questions, c'est simplement pour apporter une réponse et justifier sa réponse. Alors quand il pose cette question au sujet des femmes, c'est justement pour réhabiliter la femme aux yeux de toute la population qui pouvait entendre ses cours et profiter de l'enseignement, afin que l'on comprenne bien que la femme à l'égal de l'homme est un être humain égal. Et c'est ce qu'enseigne Saint Thomas d'Aquin. Il faut quand même pas se mettre à dire sur son compte des choses qui n'ont pas de sens. Hein? Et revenons donc à Albert le Grand. Les premières années de la vie de Saint Albert le Grand sont assez mal connues. Il y a des historiens qui soutiennent qu'il est né, imaginez, en 1193 et d'autres vers 1206. Mais je crois qu'il est préférable de choisir 1206, ce qui nous ferait dire qu'il est entré en 1223 à l'âge de 17 ans chez les dominicains, ceux qu'on appelait les prêcheurs. Vous savez qu'après le nom des dominicains, ils inscrivent toujours O.P. pourquoi OP, vous le savez tous, je l'espère, ordre des prêcheurs. Et alors, en adoptant cette date de 1206 comme sa naissance, ça rend les choses beaucoup plus plausibles. Il est né à Lauingen, dans le diocèse d'Augsbourg, en Bavière, donc en Allemagne aujourd'hui. Son père était, semble-t-il, un officier de la cour, qui avait une haute charge dans l'administration de la ville d'Augsbourg. Albert le Grand a étudié, mais il s'est attaché avec un goût particulier à ce qu'on peut appeler le grand livre de la nature. Ça le fascinait. Il y a des anecdotes extrêmement intéressantes. On ne peut pas tout raconter. En tout cas, son génie s'est épanoui au grand air, un peu comme notre frère Marie-Victorin, au contact du roc, de l'eau. Il avait l'œil ouvert sur les plantes, justement comme le frère Marie-Victorin, qui est très connu, le fondateur de notre jardin botanique, ce frère des écoles chrétiennes. Et il étudiait aussi beaucoup les animaux. Si la création parle sans doute du Créateur, cette création extraordinaire, quand on se met à l'analyser et qu'on regarde à la télévision ces films admirables qui nous découvrent la création, nous sommes privilégiés, nous, à la fin du XXe siècle, de voir en couleur, de façon vivante, très très près, les mœurs des animaux, le développement des plantes, le charme de l'eau, les rocs différents et toutes sortes de choses, on voit même des volcans en éruption, on voit tout ça, et j'espère que vous sentez que ça parle du Créateur, ça parle de Dieu tout ça. Mais lui, Albert le Grand, il sait se détacher de cette attitude parce qu'il est un scientifique. Et il regarde ça pour la création en tant que telle. Il la regarde pour elle-même. Il l'analyse scientifiquement. C'est assez étonnant. En somme, il est religieux et il contemple avec intérêt un long duel d'un cygne et d'un aigle. Et il décrit tout ça, mais il n'y a pas la moindre élévation spirituelle dans son texte. Pas parce qu'il n'en a pas, c'est parce qu'il veut être objectif. Il a le souci d'ailleurs des remarques absolument pertinentes. Tous les petits faits sont enregistrés, très intelligemment. Et c'est ainsi qu'il fait progresser dès son époque, au XIIIe siècle, la connaissance. En somme, il est très moderne, très, très moderne à une époque où personne d'autre à peu près ne l'était. Il avait un côté naturaliste de son esprit. C'est ce qui a entraîné Pie XII à le nommer patron des spécialistes qui s'intéressent aux questions naturelles, aux questions des sciences naturelles. Il a proclamé patron de tous ceux qui cultivent les sciences naturelles. Il a fait ça en 1941. Un oncle l'a conduit un jour à Bologne pour parfaire ses études. Alors, est-ce qu'il a été séduit en Italie par le fameux dominicain Jourdain de Saxe qui prêchait à Bologne en 1222? Il semble que oui, parce que nous avons, c'est une chose curieuse, on peut entrecouper dans l'histoire toutes sortes de choses. Nous avons une lettre du pape Honorius III, une lettre qui date du 3 avril 1223. Et Jourdain de Saxe prêchait en 1222, l'année précédente, donc. Et dans sa lettre, le pape déclare à un certain A, il n'y a que la lettre A, qui était étudiant à Bologne et qui était âgé de 16 ans. Il semble bien que ce soit notre Albert, Albert le Grand. Il semble bien, c'est formidable. Et le pape lui dit qu'il n'est pas tenu de devenir dominicain à la suite d'une promesse faite pendant une maladie à un frère prêcheur. C'est bien ça. Le pape n'était pas bête. Une promesse d'un enfant ne doit pas nécessairement l'engager. Mais je me souviens d'avoir rencontré un trappiste qui avait perdu une jambe à la guerre 14-18, le père Robert. Et puis, c'était à la trappe de Citeaux. Et il était hôtelier, en dépit qu'il était unijambiste. Il se déplaçait avec beaucoup de facilité, avec sa jambe de bois. Et il m'a raconté qu'il avait perdu sa jambe dans une tranchée pendant la guerre. Il n'avait que 17 ans. Tout le monde mourait autour de lui, puis il s'était écrié, lui, qu'il menait une vie plus ou moins désordonnée, et qu'il n'allait plus à l'église. « Notre-Dame de Citeaux, si tu m'arraches d'ici, je me donnerai à toi et je me ferai trappiste. » Il n'était jamais allé à la trappe, mais il en avait entendu parler. Alors, comme il s'en est sauvé, il s'est présenté à la trappe, il a dit « Je veux rentrer, je l'ai promis à la Sainte Vierge. » Et on lui a dit « On n'entre pas à la trappe comme ça. » En somme, il disait la même chose que Honorius III à cet étudiant de Bologne. Et puis, il a insisté, puis il est entré, puis il est devenu trappiste, et il était hôtelier, et très sympathique, très, très sympathique. Donc, ce Jourdain de Saxe savait faire des pressions, lui. Des pressions qu'on pourrait dire pressantes, et flatteuses aussi. Je vous donne un exemple. Il aimait recruter des jeunes dominicains. Il en a recruté énormément, Jourdain de Saxe, c'était fantastique. Un jour, il a dit à un jeune noble... Il lui fait des compliments, hein, mais il le presse pour le faire entrer chez Dominicain. Il lui dit « Quel dommage si un si beau corps allait au feu éternel. » On est au 13e siècle. Je me doute que ça devait se dire au début du siècle aussi, il n'y a pas si longtemps. Albert a immigré à Padoue avec quelques étudiants près de Venise. Et Jourdain... Il est passé en juin 1223. Il écrivait en juillet à Diane Dandolo, on a les textes, qu'il venait de pêcher 10 étudiants, dont 2 nobles de Teutonie, en Allemagne. L'un avait des revenus multiples, écrit-il. Il était vraiment noble de corps et d'esprit. Alors lui-même, il ramasse des jeunes pour les faire entrer chez les Dominicains. Il n'y a plus grand monde qui ramasse comme ça du monde pour les faire entrer en religion. Du moins, dans la plupart de nos congrégations ici, il n'y a presque plus personne. C'est désolant, désolant. Hein? En tout cas, on ignore où Albert a fait ses études chez les Dominicains. Dans un sermon à la Sainte Vierge, il exprime son désir d'un appui. Parce qu'il a peur de ne pas pouvoir persévérer. C'est l'angoisse quand on entre en religion, de savoir si on va rester ou si on va sortir, qu'est-ce qui va nous arriver. Alors, il y a peu de textes d'une sincérité aussi touchante. Voici le texte. Je vous le résume, parce que c'est un peu long. « Quand donc verrons-nous de nos yeux ce visage que si longtemps ici-bas nous avons désiré ?» Le visage de la Sainte Vierge. « Quand donc serons-nous assis auprès de notre mère, nous qui sommes si éloignés d'elle ?» Est-ce que nous la verrons? Est-ce que nous aurons la persévérance? Dites, Mère de miséricorde, est-il écrit quelque part dans le livre de votre fils Jésus que nous vous verrons avec lui? C'est une prière assez émouvante. C'est une belle prière. Mais en 1228, Albert le Grand était lecteur. Ça veut dire qu'il était professeur, hein? Souvent, chez les Dominicains, on parle de ça, des lecteurs. Ce sont des professeurs. Peut-être parce qu'ils lisent leurs cours, je ne sais pas. Et alors, il était professeur à Cologne, dans cette belle ville de Cologne, qui est une cathédrale fantastique. Il devait s'efforcer d'adapter à la pensée chrétienne les théories d'Aristote. C'est ça qu'il voulait. Aristote, vous savez, c'est ce grand philosophe grec d'avant Jésus-Christ, qui est à la base de la pensée de saint Thomas d'Aquin, puis de Albert le Grand, le professeur de Thomas d'Aquin. Alors, il va adapter à la pensée chrétienne les théories d'Aristote, qui avait, pour de grands interprètes à l'époque, les Arabes, Avicenne et Averroès. Son esprit accueillant a cherché aussi à utiliser toute la spéculation des Juifs, spécialement celle de Moïse Maïmonide. On parle souvent de Maïmonide, d'Avicenne, d'Averroès. Un jour, je vous parlerai de ces personnages merveilleux, non catholiques, mais extraordinaires, qui ont su donner à leur vie un sens profond, hein, qui ont fait de leur vie des choses absolument phénoménales, tant dans l'islam que dans le judaïsme. En 1245, On passe vite, là. Albert le Grand était à Paris, où il expliquait les sentences de Pierre Lombard. Voilà un autre dont je vous parlerai. Et il est demeuré dans ce poste jusqu'à la fin de l'année scolaire 1248, 3 ans plus tard, puis a compté, parmi ses élèves, un frère Thomas d'Aquin. Oui, le grand saint Thomas d'Aquin. C'était en Italie. Il l'avait parmi ses auditeurs. Puis finalement, bien, Albert le Grand, notre maître en théologie, comme on dit anciennement, en écriture sainte, on insistait davantage sur l'écriture sainte, on disait « in sacra pagina », dans la sainte page, c'est assez curieux. Hein? Il a été chargé de gouverner l'école, ce qu'on appelle encore, je crois, le Studium Generale de Cologne. Et puis, à plusieurs reprises, en 1252, 56, 58 et 60, donc sur une période d'environ 20 ans, on lui a demandé d'arbitrer des conflits jusqu'en 1272, de 1252 à 1272, toutes sortes de conflits épouvantables, des conflits politiques et religieux, car c'était un homme d'une très grande sagesse et d'une très grande autorité. Il a travaillé donc à 20 ans de pacification laborieuse, des luttes contre des juristes retors, des hommes de loi abominables comme il y en a aujourd'hui partout. Pas tous les hommes de loi, il y a des hommes de loi d'une très grande intégrité, des juges et des avocats admirables, j'en connais. Le chapitre, vous savez, je vous ai souvent parlé des chapitres, c'est-à-dire les réunions des administrateurs d'une congrégation ou d'un ordre religieux. On appelle ça un chapitre. Donc, le chapitre de Worms, W-O-R-M-S, on voit ça souvent, hein? Le chapitre de Worms a élu Albert le Grand provincial de Teutonie, monté en grade. Il est resté en charge seulement 3 ans, de 1254 à 1257, et pendant ce temps-là, bien, il devait veiller contre des assaises exagérées. Vous savez, il y a toujours des jeunes là, qui exagèrent, hein? Et puis ça nuit à leurs bonnes études. Alors, il veillait à ça. Mais aussi, il veillait contre les glissements là, vers une vie trop commode. Là. Ceux qui apportaient de la nourriture dans leurs cellules et qui grignotaient ou qui prenaient leurs aises ou qui restaient couchés, etc. C'est pas facile d'être supérieur et de voir à la bonne conduite de jeunes qu'on veut former à une discipline intelligente et à vraiment faire des moines qui ont de l'allure. Le chapitre rappelait, par exemple, qu'en principe, le frère prêcheur, le dominicain, devait circuler par ses propres moyens. Sauf raison légitime, disait-on. Et le chapitre blâmait formellement ce que nous appelons aujourd'hui l'autostop, là, c'est-à-dire une espèce de moyen de se faire voiturer sans fatigue. Ils n'avaient pas le droit donc de demander à quelqu'un qui passait avec un cheval de monter sur son cheval ou qui avait une voiture de monter dans la voiture. Ils ne devaient rien demander. J'espère qu'il pouvait l'accepter quand même. Alors, son maître général, Humbert de Roman, le maître général, c'est le grand supérieur des Dominicains, qui s'appelait Humbert de Roman. Albert a dû accepter, en dépit de des oppositions de son maître général, il a dû accepter un évêché, l'évêché de Ratisbonne en 1260, parce que les autorités ecclésiastiques, le pape, le demandaient. C'est une ville importante, Ratisbonne, dans le sud de l'Allemagne. Il a fallu s'ingénier à payer des dettes, parce que les finances épiscopales étaient désorganisées, c'était terrible. Des embarras économiques étaient peu de choses. En comparaison des mœurs qui s'étalaient partout, c'était effrayant. Albert a été mal accueilli. Et le peuple était habitué à un prélat fastueux, comme un prince. Vous savez, à cette époque-là, il y avait souvent des princes qui étaient nommés évêques, ou des évêques qui se prenaient pour des princes. Hein? Oh, j'en ai connu dans mon enfance. Ça existait encore un peu. Ça n'existe plus. Vous savez, quand on critique l'Église, ouvrons donc les yeux pour nous rendre compte que l'Église est bien meilleure aujourd'hui, en 1995, qu'elle ne l'était autrefois. Regardons donc intelligemment nos évêques. Ils sont peut-être pas parfaits. Bon, mais il y en a qui sont presque parfaits. Il y a des évêques merveilleux ici au Québec, dans l'Église catholique à travers le monde. Nous avons des prêtres souvent très dévoués, très humbles, très simples, qui n'ont plus d'ostentation orgueilleuse et tout ça comme ils l'avaient autrefois. Ou enlevons le mot orgueilleux. Mettons cette espèce de fierté étrange. cette espèce de complexe un peu trop clérical. C'est tellement mieux aujourd'hui, mais à cette époque, c'était pas drôle. Et les évêques étaient comme ça, souvent. C'était des prélats fastueux, comme on dit dans des vieux textes. Fastueux comme des princes. Alors, le peuple a été frappé quand il a vu Albert le Grand, parce qu'il portait des vêtements rustiques. On l'a surnommé Godasse ou Sandale, parce qu'il marchait en sandales. Alors, Albert le Grand, dès qu'il a été Il a trouvé quelqu'un capable de le remplacer. Il s'est empressé de se rendre à Rome pour offrir sa démission. Et puis, il sentait qu'il n'était pas à sa place comme évêque. Et en mai 1262, bien, son successeur était nommé. Donc, à peine 2 ans plus tard. Il n'a pas été évêque longtemps, comme vous voyez. Et le pape Urbain IV, qui était pape depuis mai 1261, a senti que la véritable fonction d'Albert le Grand dans l'Église, c'était la recherche et l'enseignement philosophique et théologique. C'est très important dans notre Église. Nous avons besoin de grands penseurs, de penseurs profonds. Un poète, vers ce temps-là, déclarait d'ailleurs qu'il y avait à la cour de Rome un génie, pendant qu'il était à Rome, lui, Albert le Grand, un génie capable de restaurer toute la philosophie si les œuvres des philosophes disparaissaient. Il s'agissait évidemment de notre dominicain, saint Albert le Grand. Le pape lui a demandé de prêcher la croisade, oui. Ce sont les mœurs du temps. Dans les pays de langue allemande, en 1263, et c'est ce qu'il a fait, sans grand effet. Les musulmans avaient repris Jérusalem en 1244. L'expédition du roi Saint-Louis en 1245, l'année suivante, a été matériellement peu efficace quand on y pense, hein, parce que le roi de France était lancé là-dedans presque seul. Et si toutes les démarches bien fatigantes qu'entreprenait Albert le Grand n'avaient pas de succès, Albert mettait au moins un autre combat bien plus efficace. Parce qu'il faisait marcher la grande pensée d'Aristote. Pour prendre à revers les théoriciens juifs et arabes qui n'étaient pas tout à fait selon la conformité chrétienne. Et Albert le Grand a offert de reprendre son enseignement. Mais le maître général, un autre maître général des Dominicains, nouveau supérieur, Jean de Verceille, a songé à l'envoyer à Paris en pleine crise de théologie. Et là, en 1274, est mort son ancien élève, Thomas d'Aquin. Et Albert le Grand a pleuré devant tout le monde avec beaucoup, beaucoup d'émotion. Nous sommes de retour à Rencontre spirituelle et nous venons d'assister, en parlant de la vie de saint Albert le Grand, ce grand dominicain qui a vécu au XIIIe siècle, on vient d'assister rapidement à la mort de son élève, saint Thomas d'Aquin. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je voudrais attirer la réflexion de Monseigneur de Courtrai, qui est mort récemment, l'archevêque de Lyon, le cardinal de Courtrai, qui disait « Jésus n'a pas dit « ce savant est un intellectuel ». Il lui ouvre les voies par une renaissance spirituelle. En somme, il puise dans l'évangile de saint Jean, au début du chapitre 3, la belle entretien de Jésus avec Nicodème, où il est dit « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer au royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » C'est ce qui fait qu'un intellectuel devient un être humain profond. Quand il renaît, grâce à l'Esprit Saint, et que son cœur s'ouvre, c'est très beau cette réflexion du cardinal de Courtrai, qui s'applique franchement à Thomas d'Aquin et à Albert le Grand. En mars 1277, l'évêque de Paris, Étienne Tempier, a condamné 119 thèses, dont plusieurs étaient thomistes, des thèses de saint Thomas d'Aquin. Et peu après, des thèses thomistes étaient censurées à Oxford, en Angleterre, et bien que vieilli, intellectuellement affaibli, Albert le Grand, qui venait d'écrire son dernier ouvrage, une Summa Theologica, une somme théologique, s'est rendu, semble-t-il, à Paris, pour défendre les vues de son cher frère saint Thomas d'Aquin. Il perdait la mémoire, et comme un visiteur de marque frappait à sa porte, demandant à le voir, il aurait répondu, c'est assez amusant, « Albert n'est plus ici, mais il y fut. Ça voulait laisser entendre qu'il n'y avait plus là qu'un corps sans âme, vraiment vivant, tellement il se sentait fini, vieilli. Et il est mort le 15 novembre 1280, assis, entouré de ses frères. Il avait légué ses livres et ses ornements aux Dominicains de Cologne. Il a été enterré dans leur église. Innocent VIII, en 1484, a permis aux Dominicains de Cologne et de Ratisbonne un office en l'honneur du bienheureux Albert le Grand, confesseur, pontife. Une lettre de Pie XI, datée de 1931, proclamait le bienheureux Albert le Grand, saint et docteur de l'Église. Ça a pris du temps, hein, quand il soit canonisé, comme vous voyez. Et comme je vous ai dit plus tôt, bien Pie XII l'a proclamé patron de tous ceux qui cultivent les sciences naturelles. Son œuvre est considérable. Son œuvre est même très, très variée. Je vous ai dit qu'au cours de 2000 ans, si on parle d'Aristote au XVIe siècle, là, on peut dire qu'Albert le Grand a été le meilleur savant qui est paru dans l'humanité par rapport aux sciences de la nature. En philosophie, il a montré comment utiliser Aristote pour servir la pensée chrétienne, au grand scandale de nombreux ecclésiastiques. Les innovateurs, toujours, créent des scandales, et on l'a vu avec le père Chenu, le père Congar dans ce siècle, et le père de Lubac, et quantité d'autres qui sont devenus souvent des cardinaux, et finalement qui ont été acceptés par l'Église. L'Église est prudente, elle se rebiffe souvent, mais finit par admettre la lumière. C'est peut-être normal et c'est peut-être mieux comme ça, autrement on accepterait n'importe quoi. Mieux vaut analyser et prendre le temps. Je n'en veux pas, moi, à l'Église, de ses condamnations. Je l'admire dans l'acceptation, dans le retour sur les choses, et dans, finalement, cette grande ouverture d'esprit dont elle témoigne. Et c'est pour ça que j'aime cette Église, même si elle est lente. La théologie d'Albert le Grand est marqué d'une note affective qui est toujours perceptible. On voit là un tempérament augustinien dans un sens. Et je pourrais dire que les mystiques rhénans, dont je compte vous parler souvent, pourraient se réclamer de lui. De toute façon, il est possible que la lenteur de l'Église à canoniser Albert le Grand soit venue, pour une petite part du moins, de cette espèce de légende qui courait, moi, en tout cas dans mon enfance, on en parlait, une légende qui était bien fâcheuse, où on nous présentait Albert le Grand comme une espèce de magicien, qui était adonné aux sciences occultes. On lui a prêté des aventures fantastiques. On prétend qu'il aurait construit des automates d'une prodigieuse perfection. Mais notre époque, qui est le temps de la cybernétique puis des robots, s'intéresserait sans doute à ce pseudo-Albert, précurseur du docteur Foss et de toutes ces choses plus ou moins étranges. Mais on dit, en milieu très sûr, que quand on applique à Albert le Grand ses connaissances plus ou moins ésotériques, c'est une erreur et on lui attribue des choses qui ne sont pas vraies. Pour terminer sur Albert le Grand, je voudrais vous lire un très beau texte, car on ne parle pas assez souvent de l'Eucharistie. Or, il a écrit l'un des plus beaux textes, à mon avis, sur l'Eucharistie, sur la présence réelle, sur le corps et le sang du Christ. C'est un commentaire qu'il a fait, Saint Albert le Grand, sur l'Évangile de Saint Luc. Je vous prierai de vous concentrer, de bien écouter. Parce que ça concerne la messe. Ça concerne cet acte que tous nous posons le dimanche matin et plusieurs d'entre nous le posons chaque jour, quand nous participons à la très sainte Eucharistie. Voici donc le texte de saint Albert le Grand. « Faites cela en mémoire de moi. Dans cette parole, deux choses sont à relever. La première, c'est que le Seigneur nous prescrit la pratique de ce sacrement, ce qu'il signale quand il dit « Faites cela ». La seconde, c'est qu'il doit être le mémorial du Seigneur qui s'en allait pour nous à la mort. Ce sacrement est utile au pardon des péchés et très utile pour que notre vie ait la plénitude de la grâce. Le Père des esprits nous forme à ce qui est utile pour que nous recevions sa sainteté. Or, sa sainteté se trouve dans le sacrifice de son Fils, c'est-à-dire lorsque dans le sacrement il s'est offert au Père pour nous,
et à nous comme notre nourriture. Pour eux, je me consacre moi-même. Poussé par l'Esprit Saint, Jésus s'est offert lui-même à Dieu. Il purifiera notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions célébrer le culte du Dieu vivant. En outre, nous ne pouvons rien faire de plus doux. Tu as donné à ton peuple un pain venu du ciel, tout préparé, sans aucun travail de leur part, ayant en lui toutes les délices et la douceur de tous les goûts. Et la substance que tu donnais manifestait bien la douceur envers tes enfants, puisque répondant au goût de chacun, elle se transformait selon ta volonté. Oh, rien non plus ne pouvait être prescrit de plus salubre. En effet, ce sacrement est celui de l'arbre qui porte les fruits de vie. Qui en mange avec la dévotion d'une foi sincère ne goûtera jamais la mort. C'est un arbre de vie pour celui qui le saisit. Bienheureux qui s'en emparera. Celui qui me mange vivra par moi. Rien ne pouvait être prescrit de plus aimable. En effet, ce sacrement réalise l'amour et l'union. Le plus grand signe d'amour est de donner, de se donner en nourriture. Les gens de ma tante le disaient bien. Qui nous donnera de sa chair pour que nous soyons rassasiés? C'est comme s'il disait, je les ai tant aimés, et réciproquement que je désirais être dans leurs entrailles. Quant à eux, ils désiraient être incorporés à moi pour devenir mes membres. Ils ne pouvaient être unis à moi, et moi à eux, d'une manière plus intime et plus physique. Et saint Albert le Grand termine par ces paroles magnifiques. Ce texte extraordinaire sur la très sainte messe, sur l'Eucharistie. Enfin, rien ne pouvait être prescrit qu'il soit mieux accordé à la vie éternelle. Car la permanence de la vie éternelle vient de ce que, dans sa douceur, Dieu se répand lui-même dans les bienheureux. Et maintenant, nous sommes de retour à Rencontre spirituelle, et nous allons terminer avec Joseph Pignatelli, un jésuite, qui est mort en 1811. C'est le pape Pie XI qui a appelé le père Pignatelli le principal anneau de la chaîne entre la Société de Jésus, les jésuites qui avaient existé, et la société qui allait exister, le restaurateur des jésuites. Vous connaissez un peu l'histoire des jésuites, et en 1737, à Saragosse, en Aragon, est né Joseph-Marie Pignatelli, qui a été mêlé à cette histoire des jésuites qui est catastrophique. Il est né le 27 décembre, donc, 1737. Il va mourir en 1811, à l'âge de 74 ans, et quelle vie! Il appartenait à la branche espagnole d'une famille noble de Naples, c'est curieux, c'est pour ça qu'il a un nom italien, Pignatelli. Il est entré très jeune au noviciat de la Compagnie de Jésus à Tarragone. Oh, c'est près de la France. Je suis déjà allé aussi, c'est en Catalogne. Mais de très belles choses à voir à Tarragone. En 1762, le Parlement ordonne la suppression des jésuites. Notre jésuite est ordonné prêtre au mois de décembre suivant. C'est le Parlement français qui a ordonné la suppression des jésuites. En 1767, 5 ans après cette suppression en France, bien les jésuites sont expulsés d'Espagne et de France. Alors, où peut-il se réfugier? À Rome, les jésuites sont indésirables. Alors, le père Pignatelli réconforte, il regroupe ses confrères. Il émigre avec eux en Corse, cette île italienne au sud de la France et qui fait aujourd'hui partie de la France, où il les fait vivre. Il secourt aussi les gens de la Corse qui sont dans la détresse. mais il tombe bien mal. Gênes, la ville de Gênes, possédait cette île de Corse. Et Gênes avait, c'est une ville, n'est-ce pas, qui est en nord de l'Italie, près de la France, Gênes. Alors Gênes avait vendu l'île de la Corse à Louis XV en 1768. Et il y a un dénommé Paoli qui soulève la population contre les Français en 1769, l'année suivante. Et ça continue. Les Corses, qui se sentent très Corses, sont toujours un peu en rage contre le fait d'appartenir à la France. N'aiment pas tellement les Français, souvent. Qui était Corse et que vous avez connu? Napoléon et Tino Rossi. Alors, il me semble bien que Tino Rossi était Corse. Et alors, les Jésuites, par Gênes et par Parme, ils gagnent Ferrare. Ferrare, c'est une ville qui est dans les États pontificaux. À cette époque, le pape possédait des États énormes qui rongeaient une grande partie de l'Italie. Et le 2 février 1771, le père Joseph Pignatelli, jésuite, prononce ses vœux perpétuels dans l'église de Ferrare, à l'abri des pouvoirs du pape. En 1773, deux ans plus tard, le Grand Orient se constitue en France. Ce sont les francs-maçons qui ont un certain rôle à jouer finalement dans tout ça. Le pape Clément XIV cède à la pression des Bourbons qui régnaient sur plusieurs trônes. Et puis, il dissout la Compagnie de Jésus. Là, il va pas de main morte. Plus de jésuites. Alors, les pères jésuites de Ferrare se soumettent. Pignatelli prend le costume des prêtres séculiers. Il se retire à Bologne. Et comme il peut pas se livrer au ministère auprès des âmes, en vertu de la loi qui a été portée contre la Compagnie de Jésus, mais il étudie, puis il amasse une bibliothèque de valeurs. Sa maison est ouverte à ses confrères. Il héberge des prêtres qui fuient la France révolutionnaire au moment de la Révolution, là. Mais un groupe de l'ordre est vivace. Où, chose étrange, c'est en Russie, où règne la fameuse Catherine, qui est orthodoxe. Il se joint aux pères jésuites du duché de Parme qui ont adhéré au groupe russe. Et avec l'assentiment du pape Pie VI, ben, il y a un noviciat qui est érigé dans le duché de Parme et Pignatelli en devient le recteur. Puis en 1804, après la Révolution, le pape Pie VII restaure la Compagnie de Jésus dans le royaume de Naples. Les choses semblent vouloir se calmer. Le père Pignatelli y devient provincial, y restaure. Mais l'armée française, tout à coup, qui occupe Naples sous Napoléon, eh bien, il disperse le rassemblement des jésuites et notre père Pignatelli passe à Rome en 1806, où il est fort bien accueilli par le pape. Il s'établit près de Sainte-Marie du Bon Conseil, à l'hospice de Saint-Pantaléon au Mont, c'est sur la Via dell'Agnello. C'est entre le Colisée puis la Via Cavour. Ceux qui ont fréquenté un peu Rome vont se souvenir. Et là, les Français qui occupent Rome le tolèrent. Les Français se montrent tolérants tout à coup. Et le père Pignatelli prépare sans bruit la renaissance de la grande Compagnie de Jésus le 15 novembre 1811. C'est son anniversaire aujourd'hui. L'anniversaire de sa naissance au ciel, il meurt paisiblement, assisté par les pères et les frères de la maison. Les funérailles sont quasi secrètes, et après la restauration de la compagnie, ben le corps de Pignatelli a été porté à Rome en l'église du Très-Saint-Nom de Jésus, puis il a été déclaré bienheureux par le pape Pie XI en 1933, Pie XII l'a canonisé, lui, à son tour, en 1954. Nos confrères chrétiens, jésuites, que nous aimons beaucoup, que nous tenons à saluer en ce jour, le commémore eut le 28 novembre. On peut vénérer le masque mortuaire du père Pignatelli auprès de la chambre de Saint-Ignace de Loyola, Via d'Araceli. Et nous sommes de retour maintenant pour rapidement parler de Saint Léopold III, ce margrave d'Autriche, un laïc qui est patron de l'Autriche, qui est mort en 1136. C'est très bref et c'est assez émouvant. Il était fils donc du margrave d'Autriche Léopold II, et notre saint c'est Léopold III. Donc il était le fils de Léopold II de Babenberg. Notre saint Léopold est né en 1073 à Melk. Ça vous dit quelque chose, Melk, vous qui êtes allé en Autriche, hein, vous devez être allé à l'abbaye de Melk, cette abbaye bénédictine baroque absolument fabuleuse, c'est extraordinaire à visiter. Et on peut dire que la marche d'Autriche commençait seulement sa longue, longue croissance, qui devait en faire un des plus grands États d'Europe. L'Autriche est en fait un petit pays qu'on pourrait rapprocher du Québec, la population, c'est un pays qui sur la carte n'a pas énormément d'importance, mais quelle grandeur dans l'âme des Autrichiens. C'est un grand pays catholique aussi, ce sont des catholiques. Dans sa jeunesse, Léopold a subi une heureuse influence, c'est celle de Saint Altmann, qui était évêque de Passau. Puis quand il a succédé à son père, en 1095, Léopold était bien décidé à favoriser de tout son pouvoir la réforme de l'Église, parce qu'il avait été influencé par ce saint évêque. Un évêque peut faire énormément de bien dans l'âme d'un jeune prince, ou de quelqu'un qui va exercer du pouvoir. Or, à la même époque, le fils de l'empereur Henri IV, le futur Henri V, était si impatient de gouverner qu'il s'est révolté le 12 décembre 1104 pour se créer un parti, puis s'est déclaré hautement défenseur des droits de l'Église contre son père excommunié. En somme, cet empereur Henri IV, le fils de l'empereur Henri IV, Henri V, était honnête. Et sa ruse a réussi si bien qu'il s'est vu soutenu par le pape Pascal II, puis les seigneurs les plus dévoués au pape, entre autres notre saint Léopold d'Autriche. Il trouvait en Léopold un allié si précieux qu'il n'a pas hésité à lui faire épouser en 1106 sa propre sœur Agnès, veuve du duc de Souabe, Frédéric de Hohenstaufen, dont elle avait eu 3 enfants déjà. Et écoutez bien ça, de son mariage, Léopold a eu d'elle 18 autres enfants. 6 fils et 5 filles ont survécu. 2 fils ont servi l'Église, Conrad, qui est mort archevêque de Salzbourg, et surtout Otton, qui après avoir étudié à Paris est devenu moine à Morimont. Il a contribué à fonder le monastère cistercien d'Heiligenkreuz. Et il est mort évêque de Freising en 1158 en laissant une précieuse chronique pour l'histoire de l'Église. Notre saint Léopold a fondé l'abbaye bénédictine de Mariazell. Et les 40 ans de gouvernement de notre Léopold, saint Léopold III, sont assez mal connus. Par 2 fois, il a dû repousser des attaques hongroises, autres pays catholiques. Et à la mort de Henri V, son ami empereur, en 1125, on a proposé son nom pour qu'il devienne empereur lui-même, mais il n'y tenait guère. Il s'est rangé aussitôt aux côtés de Luther, qui l'accompagnait en Italie. Et nous savons qu'on l'appelait, on appelait Léopold le père des pauvres. Et Léopold est mort le 15 novembre 1136. Il a été enterré à Klosterneuburg, au milieu des regrets de son peuple autrichien, qui lui a décerné le titre de pieux, Léopold le pieux. À la demande du duc d'Autriche, Rodolphe IV, le pape Innocent VI a prescrit en 1358 une enquête en vue de la canonisation de notre laïc saint Léopold. Et sur de nouvelles instances, l'enquête a été reprise en 1465, puis Innocent VIII a canonisé ce margrave fort pieux, très près des pauvres, le 6 janvier 1485. Il est patron de l'Autriche, Saint Léopold III, un grand laïc.